On fait le point aujourd'hui en émission spéciale sur la maladie à coronavirus, la fameuse COVID-19 qui inquiète beaucoup de gens. Vous venez d'entendre la conférence de presse de la mairesse Valérie Plante avec également la docteure Mylène Drouin, qui est directrice de santé publique de Montréal, où on nous disait d'ailleurs que le premier Montréalais à avoir contracté la maladie est sorti de sa quarantaine et serait donc maintenant guéri. Nous avons avec nous le docteur Alex Carignan, qui est microbiologiste infectiologue. Il est chercheur au CIUS de l'Estrie, le CHU également de l'Estrie. Bonjour docteur Carignan, merci vraiment de prendre le temps de nous parler.
Bonjour Mme Maréchal.
Je sais que vous avez les deux mains dedans là, puis que vous courez beaucoup d'un patient à l'autre. On va y aller directement. Cette nouvelle là, qu'il y aurait un premier Québécois qui aurait contracté la maladie à Montréal, qui serait maintenant guéri. Vous avez entendu Valérie Plante. Vous en pensez quoi, ça? Pouvez-vous réagir là-dessus?
Bien, évidemment, c'est rassurant. Puis ça va aussi quand même avec l'évolution attendue de la maladie. Ce qu'on a vu jusqu'ici, les données scientifiques qui ont été publiées, c'est que 80% des cas, on parle de formes légères à modérées qui vont guérir spontanément. Donc, même si on entend beaucoup parler qu'il n'y a pas de traitement spécifique, qu'il n'y a pas de vaccin, etc., faut quand même savoir que la grande majorité des gens vont s'en tirer indemnes sans aucune complication. Le but, évidemment, c'est pas de banaliser ici, mais quand même, je dirais, pour quelqu'un qui est en bonne santé, on s'attend à ce qu'il y ait une bonne réponse et qu'il, disons, se débarrasse du virus par lui-même.
Voilà, ce qui est donc quand même, c'est important de rappeler ça, docteur Carignan, parce qu'il y a beaucoup de gens inquiets avec cette espèce d'isolement obligatoire, même si il y a pas de police qui nous s'assure qu'on le respecte, et c'est peut-être ça un peu qui est malheureux pour bien des gens qui semblent pas encore tout à fait comprendre le message, en particulier certains voyageurs là qui ont pas tout à fait compris l'urgence, la gravité, pour reprendre le mot de Valérie Plante, la gravité de la situation. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces mesures qu'on va mettre en place à partir de 1h cet après-midi à l'aéroport Montréal-Trudeau? Est-ce que vous pensez que ça va permettre de contenir un peu ces cas qui pourraient arriver à Montréal via la porte de l'aéroport et peut-être aller dans le public? Là au moins, on dit aux gens, sortez pas. Là. Si vous arrivez de voyage, restez chez vous.
Ben, il est temps, il est grand temps. Je suis vraiment pas le seul à le dire. La plupart des experts s'entendent tous que, bon, jusqu'ici, la réponse, entre autres au Québec, elle est excellente. La réponse de nos autorités au Québec, des autorités de santé publique, du ministère, elle est excellente. Donc, les mesures qui ont été mises en place, au départ, ça pouvait sembler démesuré pour certaines personnes, mais c'est la chose à faire. Pour prévenir la propagation du virus, l'expérience en Chine nous a montré que ce sont des mesures qui sont très simples qui peuvent nous aider à combattre cette épidémie-là. Des mesures simples, mais qui doivent être faites de façon très agressive. Donc, on parle de l'isolement des malades, détection rapide des cas, isolement des malades, distanciation sociale. Donc, les mesures qui ont été annoncées par le ministère, ça vise tout ça. Déjà, on travaille très fort au niveau de la santé publique pour détecter les cas, les isoler. Là, maintenant, on demande aux gens un très grand effort, mais c'est un effort qui est important parce que le fait, bon, de prévenir la transmission, parce que la transmission, elle se fait de personne à personne avec des contacts étroits. Ça aussi, en Chine, on l'a observé, la très, très grande majorité des cas qui vont survenir, c'est des gens qui ont eu un contact étroit avec une personne malade. Donc, les cas, il n'y a pas une génération spontanée. C'est les contacts sociaux qui vont amener la transmission de la maladie. Donc, si on peut prévenir ça, c'est la meilleure façon de freiner la maladie.
Pouvez-vous, docteur Carignan, nous expliquer ce que c'est qu'un contact étroit? Parce qu'on parlait d'une distance d'un mètre à un moment donné. Là, ce matin, la docteure Drouin, de la Direction de la santé publique de Montréal, disait une distance de 2 mètres. C'est quoi cette espèce de distanciation qui serait normale et nécessaire?
Mais le virus, il se transmet en grande majorité par des gouttelettes. Donc, quand les gens toussent, éternuent, il y a des gouttelettes relativement grosses, toutes choses étant relatives, mais qui vont se déposer. Généralement, c'est effectivement la distance de 2 mètres qui est acceptée. Bon, là, dans des mesures qui sont appliquées à l'ensemble de la population, 1 mètre, 2 mètres, je pense, on va pas sortir nos galons à mesurer, mais Le principe, c'est d'éviter les contacts étroits. Bon, disons, le virus, effectivement, il pourrait se propager jusqu'à 2 mètres. Ça peut même être des fois un peu plus, un peu moins. Mais je pense que 2 mètres qui était annoncé ce matin est tout à fait raisonnable. Puis déjà, 1 mètre, en fait, ce que ça signale aux gens, c'est, bon, faut éviter les contacts rapprochés.
Ouais, voilà. Vous dites le virus se transmet par des gouttelettes. Certains spécialistes, certains médecins la semaine dernière disaient oui, les gouttelettes, d'accord, mais les gouttelettes peuvent rester dans l'air. Donc ça veut dire que il faut se méfier également des surfaces. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions là-dessus en ce moment même. Là.
Bien, l'air et les surfaces sont deux choses différentes. Effectivement, bon, lorsque ces gouttelettes-là, elles se déposent dans l'environnement. Bon, le virus peut demeurer viable, bon, peut demeurer vivant pour, ben, vivant, un virus n'étant pas vivant, mais peut être infectieux pendant quelques heures, il y a certaines données, même quelques jours, sur des surfaces dans des conditions expérimentales. Donc, c'est important quand on va dans des lieux publics. L'hygiène, c'est de là l'importance de l'hygiène des mains. Donc, quand on touche à des endroits qui sont fréquentés par d'autres personnes, c'est important. L'hygiène des mains, on le répète jamais assez, avec l'eau et le savon pendant 20 secondes. Les gels aussi alcooliques peuvent être efficaces. Par contre, bon, là, il y a des notions de pénurie, mais faut rappeler que l'eau et le savon, ça demeure très, très efficace pour prévenir ça. Donc, oui, il y en a dans l'environnement. Pour ce qui est de l'air, la portion qui vraiment pourrait se propager dans l'air, flotter dans l'air pendant plusieurs heures, c'est vraiment très, très minime. Puis ça va se faire surtout dans des contextes hospitaliers où est-ce qu'on a des procédures qui pourraient, ce qu'on appelle générer justement des aérosols, générer des particules dans l'air. Puis là, à ce moment-là, il faut prendre des précautions particulières, mais je vous dirais dans la vie de tous les jours, là, vraiment la grande majorité, puis encore une fois par les études de la Chine, c'est dans notre entourage immédiat. C'est pas uniquement le fait de se promener dans un endroit public. C'est l'entourage immédiat, quelqu'un qui va tousser, cracher autour de nous. On reçoit des gouttelettes, ensuite on se touche la bouche, les mains.
Ouais,
c'est
ben
cette façon-là qu'on se contamine.
Ben justement, j'ai Isabelle qui m'écrit. Le métro, pouvez-vous nous en parler? Le métro, on fait quoi dans les transports en commun, docteur Alex Carignan?
Ben, on évite les contacts rapprochés. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire.
Ouais, exactement. Est-ce que vous déconseillez aux gens de prendre les transports en commun?
Ben, à ce moment-ci, je vous dirais que toutes les mesures qui ont été, disons, mises de l'avant, on essaie d'encourager le télétravail. C'est entre autres pour éviter justement que les transports en commun soient bondés. Bon, est-ce qu'éventuellement il va y avoir des restrictions? Même ça, je vais laisser les gens de la santé publique faire le travail parce qu'ils le font très bien jusqu'ici. Pour l'instant, il n'y a pas d'interdiction qui a été mise, mais certainement, si c'est pas nécessaire, on évite ça. Cette semaine, j'entendais des gens, bon, qui continuaient à aller prendre leur petit café tout l'avant-midi, bon, au Tim Hortons, pour pas citer des chaînes. Je veux pas empêcher les gens d'y aller, mais disons les contacts sociaux qui peuvent être évitables, on les évite.
D'accord. Bon, donc ce que vous nous dites, là, docteur Alex Carignan, c'est restez donc chez vous, tout le monde. Là. C'est un peu ça, là.
Ben c'est le message général qu'on entend depuis quelques jours. Les choses évoluent très très rapidement. Bon là, espérons que les mesures, parce que encore une fois, on demande aux gens de faire un très grand effort, mais s'ils continuent de rentrer des cas au Canada, bon, je suis d'accord, évidemment, faut rapatrier les nôtres qui sont à l'extérieur, mais si on permet en plus des voyageurs de l'extérieur, là, on y arrivera jamais. Donc on espère que les mesures en place vont permettre de limiter l'entrée dans le pays du virus, parce que jusqu'ici, on fait tout ce qui est en notre possible, puis on réussit quand même à le contrôler, mais là, on le voit, il y a une augmentation des cas. Ce matin, on parlait de nouveaux cas un peu partout, donc ça bouge, je dirais, d'heure en heure, mais c'est certain que plus on avance, ben plus il faut limiter les contacts.
Mais est-ce que vous n'êtes pas d'avis qu'à un moment donné, parce que là, on comprend là, que bon, ce qu'avait Valérie Plante a annoncé ce matin, On comprend que c'est surtout pour mettre de la pression sur un gouvernement fédéral qui met pas ses culottes puis qui fait pas ce qu'il y a à faire. Mais en même temps, on voit la limite de l'intervention d'une municipalité sur un aéroport qui est de juridiction fédérale. Fait que là, c'est ça.
Ben, les gens sont un peu découragés. Ils voient l'évolution très rapide de l'épidémie. D'un autre côté, on voit des mesures qui sont pas mises de l'avant aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Je pense encore une fois, au niveau du Québec, on était très proactifs, mais on a, disons, certaines limites législatives. Puis moi, je peux pas être en défaveur quand je vois des gens, bon, des municipalités, des gens de la santé publique du Québec qui disent, bon, ben nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire notre maximum. Je pense que minimum d'informer les gens qui sont de retour de voyage, les encourager à faire les mesures d'isolement et de publiciser comment on doit les faire. Je pense qu'on peut référer les gens au site du ministère de la Santé qui est très bien fait avec des consignes claires pour qu'est-ce qu'on doit faire, quelqu'un qui serait en isolement à la maison. Mais effectivement, on espère.
Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Les compagnies aériennes, il faut qu'il y ait quelqu'un qui leur parle puis qui leur dise de ne plus faire venir des voyageurs ici dans des, je veux dire, des avions de touristes, là, ça se peut pas, là. Un touriste ne peut pas venir à Montréal.
Moi, je vous dirais que je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça va aussi dans l'autre sens. Ce matin, je voyais encore des gens qui partaient pour Cuba. C'est un non-sens. C'est, à mon avis, irresponsable. Tant au niveau individuel que public, à partir du moment où est-ce qu'on part maintenant en connaissance de cause du risque, parce qu'on a quand même la chance, si je peux le dire ainsi, d'être en retard un peu dans l'épidémie mondiale. On n'a pas encore de transmission locale soutenue, quoi qu'on ait peut-être aux portes de ça, mais par définition, si on voyage, on se rend dans un pays où le risque est plus important que dans le nôtre. Donc, pour une maladie, on le dit, qui est pas banale du tout, avec une mortalité entre 5 et 35 fois la mortalité qu'on observe avec la bonne vieille grippe, qui déjà fait des ravages chaque année. Donc, faut pas rigoler avec ça du tout.
Oui, d'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques minutes supplémentaires, Dr Carignan?
Oui.
Bon, parce qu'on a beaucoup de gens qui veulent vous poser des questions, donc je pense que ça va faire œuvre utile. On revient tout de suite après cette pause. Nos numéros 514-790-9850. Pour nous joindre de l'extérieur de la grande région de Montréal, vous faites le 1-866-790-9850. Je suis en compagnie du microbiologiste, infectiologue, chercheur au CIUSSS de l'Estrie, le Dr Alex Carignan. Vous pourrez lui poser des questions tout de suite après ceci. Restez là, tout le monde. Notre médecin, le Dr Alex Carignan, microbiologiste, infectiologue, répond à vos questions concernant la propagation de ce virus, la maladie à COVID-19. On a Lisa qui est avec nous. Bonjour, Lisa.
Bon matin, docteur. Bon matin, Isabelle.
Je voulais
savoir une bonne nouvelle que la première personne a été guérie, le premier cas à Montréal.
Ouais.
Et ma question concernait, docteur, si une personne est guérie, est-ce qu'elle pourrait rechuter encore ou est-ce qu'elle est immune?
Très bonne question. Oui.
Deuxième question.
Docteur Carignan, est-ce qu'on peut l'avoir à nouveau une fois qu'on l'a eu?
C'est une excellente question, effectivement. Jusqu'ici, ce qu'on voit, c'est que la guérison de la maladie proférait en fait ensuite une certaine protection. On développe des anticorps qui nous protégeraient. Par contre, on n'est pas à l'abri d'éventuelles mutations dans le virus qui le rendraient, disons, plus agressif, mais aussi qui pourrait faire qu'éventuellement on se réinfecte. Mais pour l'instant, ce qui a été observé, c'est qu'une fois qu'on a fait la maladie, on ne va pas la refaire. Et une fois qu'on en est guéri non plus, il n'y a pas de forme chronique, par exemple, qui ferait qu'on pourrait en récidiver plus tard. Par contre, dans certains cas, il y a des patients qui initialement ont une forme, disons, moins sévère. Ça a été observé qu'éventuellement, ça peut se détériorer au fil des jours. Donc, c'est important quand même de faire un suivi serré des patients qui sont infectés.
Voilà, mais pour ce qu'on en sait pour l'instant, quelqu'un qui aurait eu le virus n'aurait pas de raison de le rattraper, à moins bien sûr qu'il...
Non.
Voilà, d'accord. Mais ça, c'est rassurant aussi. Stéphane, bonjour, vous avez une question pour le docteur Carignan.
Bon, merci d'être là, docteur, et vous, Isabelle. Et, docteur, moi, j'ai fait une pneumonie il y a 2 ans. J'ai été hospitalisé pendant 8 jours. Puis, il y a 1 mois, j'ai fait une pancréatite aiguë. J'ai été réhospitalisé pour m'a mis en isolement. Puis, on m'a dit, je me demandais pourquoi on me met en isolement. Ben, ils m'ont dit, dans mon sang, ils ont vu que j'avais fait une pneumonie, un virus qui s'appelle le SRAM, puis que je vais avoir ça à vie dans mon système. Ça se peut-tu, ça?
Ben ça c'est je dirais c'est complètement différent là, c'est on appelle ça le SARM, c'est une bactérie, c'est du staphylocoque qui est résistant aux antibiotiques, puis effectivement on peut s'en débarrasser, mais c'est pas du tout lié au coronavirus là. La raison pour laquelle vous êtes isolé, c'est pour éviter de le transmettre à des gens, comme c'est une bactérie qui peut être plus résistante aux antibiotiques.
Voilà, merci Stéphane de votre question. Claudette, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, je demeure dans des gros blocs qui ont une piscine intérieure. Je voulais savoir si on doit fermer ou c'est correct de se baigner dans ces endroits. Là.
Le chlore, fermé, les piscines, aider. Là.
Mm-hmm. Pardon? Non, mais c'est pas une piscine. Là,
oui, j'ai compris dans votre bloc, mais normalement, si les piscines publiques sont fermées, hein, Dr Carignan, je pense qu'on peut...
Je dirais le même principe s'applique. C'est pas nécessairement la piscine en tant que telle, l'eau qui est un problème. C'est vraiment le but d'éviter des contacts sociaux inutiles. Puis effectivement, la piscine est un endroit qui pourrait être propice à ça.
Voilà, c'est ça. Merci, Claudette, de votre question. Je pense qu'à un moment donné, il y a le gros bon sens qui entre en ligne de compte, Dr Carignan. C'est tout... Quand on dit le plus possible, restez chez vous, on va parler de travail tout à l'heure, et parce qu'il y a des grandes implications, il y a des gros impacts pour les gens, pour tous les travailleurs qui sont bien inquiets. Et on leur dit restez chez vous, mais en même temps, s'il y en a qui ne rentrent pas au travail puis qui ne sont pas payés, ça, c'est un autre problème. On va en parler d'ici 11h05, après 11h05 plutôt. Mais c'est clair que ce qui est piscine, même les centres de ski ont fermé. Là. Si vous aviez des projets d'aller faire du ski cette semaine parce que vous dites on va occuper nos jeunes, ben vous ne pouvez pas y aller. C'est fermé. Les gyms aussi se rendent bien compte que ce sont des lieux de propagation potentielle de virus. Donc, à un moment donné, hein, Dr Carignan, je pense qu'il faut que chacun réfléchisse hein, au mieux de sa possibilité.
Absolument.
Se dise, peut-être, à partir du moment où on se pose la question, c'est-tu parce que la réponse, ça commence à être évidente?
Ben de plus en plus, je vous dirais la semaine dernière, moi-même, par rapport à ce que je fais au quotidien, je me posais des questions, mais maintenant je m'en pose plus.
Et voilà.
Parce que en fait, il y a plusieurs de ces questions-là qui se sont réglées d'elles-mêmes. On parlait des gyms justement. Je pense que c'est un bon exemple. Le gouvernement a recommandé la fermeture hier. Tout endroit en fait qui pourrait nous amener à des rencontres multiples, faut les éviter au maximum.
Voilà, on a Marie qui est avec nous. Bonjour Marie, votre question au Dr Carignan.
Oui, bonjour. Ben, j'ai une question en deux parties. Mm-hmm. Pourquoi, Dr Carignan, les personnes de 70 ans et plus qui n'ont aucune maladie pourraient pas sortir marcher, entre autres pour synthétiser la vitamine D, faire de l'exercice, préserver leurs os? Et puis, deuxième partie, ces mêmes personnes peuvent très bien marcher jusqu'à l'épicerie, aller porter des gants, utiliser une caisse automatique, toujours avec les gants, puis rentrer à pied, n'auraient toucher ni rien ni personne. Pourquoi?
Ben, votre question touche plusieurs points. D'abord, je pense sortir, faut faire attention là quand on demande aux gens de 70 ans et plus de pas sortir. C'est pas nécessairement de rester au fond de leur sous-sol. C'est vraiment de sortir pour éviter les interactions sociales. Parce que ça, on le voit très, très bien. Les patients âgés de plus de 70 ans, à partir de 70 ans, il y a quand même une hausse de la mortalité qu'on observe qui est assez importante. Ensuite de ça, donc, marcher à l'extérieur, si vous êtes seul, vous marchez à l'extérieur ou avec votre conjoint, conjointe, il n'y a pas de problème. C'est pas le fait de sortir à l'extérieur qui est problématique. C'est de sortir à l'extérieur, s'en aller dans un lieu public. Je donnais l'exemple tout à l'heure des gens qui vont prendre leur petit café pour jaser. Mm. Là, c'est plus le bon moment pour faire ça. Par contre, prendre l'air, sortir à l'extérieur, je pense que même c'est sain dans ce contexte-là de s'aérer l'esprit. Votre deuxième point, en fait, ça m'amène à une observation. On parle du port de gants. Le port de gants, c'est vraiment évité en public. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est une arme à double tranchant. Lorsqu'on utilise, c'est un peu comme les masques, en fait. Il y a une façon d'utiliser les gants. Il y a même un protocole en milieu hospitalier, pour mettre les gants, pour les enlever avec l'hygiène des mains, comment on doit la faire avant et après. Donc, les gens qui sont pas habitués de faire ça, il y a plus de risques qu'autre chose de se contaminer. Il y a une façon aussi d'enlever les gants. Puis, le point important, un peu comme les masques, les gants, on en a besoin dans les hôpitaux. Moi, cette semaine, je suis de garde. Déjà, on observe des pénuries de gants un peu partout, comme les masques. Donc, on va en avoir besoin pour soigner ces patients-là. Donc, je dirais à tout le monde, là, de grâce, là, ne vous ruez pas vers les pharmacies pour acheter tous les gants disponibles. D'abord, ça vous protégera pas nécessairement. Et deux, vous nuisez aux gens qui travaillent à l'hôpital pour soigner des personnes qui sont réellement malades. Ce qu'il faut mettre l'emphase, c'est toujours la même chose, c'est l'hygiène des mains. Ouais. Laver les mains à l'eau et au savon, ou avec des gels alcoolisés, c'est la meilleure façon de se protéger lorsqu'on va en public. Voilà.
Ben merci beaucoup, docteur Alex Carignan, pour toutes ces précieuses informations. Je vous laisse retourner à votre garde. Merci d'avoir pris le temps. C'est vraiment très apprécié parce que là, on fait beaucoup d'éducation à un plus grand nombre au même moment. On aura l'occasion de se reparler, j'espère, cette semaine, docteur Carignan. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Au revoir. Docteur Carignan, qui travaille au CIUS de l'Estrie. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a quand même un cas, là, qui... puis ça, c'est une bonne nouvelle. Il a commencé tout à l'heure en nous disant que c'était rassurant. Qu'il y ait un premier Québécois guéri de cette maladie-là. Mais il l'a dit, le docteur, contact étroit avec une personne malade à éviter, distance de 2 mètres, parce que le virus se transmet par des gouttelettes. Ça se dépose dans l'environnement, sur l'air, sur les surfaces, un peu dans l'air. Mais vraiment, l'idée, là, c'est que si vous voyez que vous êtes en contact avec des gens qui ont peut-être des symptômes, des fois, ça peut être le H1N1, là, ça peut être juste la grippe, là, un rhume, on ne prend pas de chance. C'est vraiment le gros bon sens ici qui doit opérer. On va s'arrêter ici, puis il y a beaucoup de gens qui ont des inquiétudes. On va parler à une spécialiste justement des traumatismes et du stress et qui va nous donner plein de bons conseils tout de suite après la pause. Restez là tout le monde.